On essaie d'entrer en contact avec Isabelle Blouin. Je vous explique un peu qui elle est. Elle qui faisait l'objet d'un texte dans Le Droit, c'est une avocate qui m'intrigue. Bon, oui, elle est en fauteuil roulant, mais c'est surtout son point de vue sur l'accessibilité universelle qui m'a fait... qui m'a montré un discours un peu différent de ce que l'on a l'habitude d'entendre, particulièrement des émissions comme ici ou comme Les Capés. Et, parenthèse, si jamais vous êtes de la région où est diffusé Les Capés, on pense à vous aujourd'hui. Il me semble que j'ai vu 20 à 25 cm aujourd'hui dans la région de Québec. Isabelle Blouin, sur la Côte-Nord, est-ce qu'il neige chez vous aussi?
Pas pour l'instant.
OK. Est-ce qu'on attend de la neige aujourd'hui?
Pas aujourd'hui, mais cette semaine, on devrait en avoir qu'un petit peu.
OK, juste un petit peu. Bon. Vous êtes directrice du Centre de justice de proximité de la Côte-Nord. Et, comme je commençais à dire pendant qu'on essayait d'établir la communication, vous êtes avocate et il y a des petites choses que j'ai vues dans un texte publié dans Le Droit qui m'ont dit « Ah, j'ai envie de parler à cette fille-là ». D'abord, tiens, peut-être juste mettre les choses en perspective. Contextualisez-moi la justice de proximité, Isabelle.
La justice de proximité, mais nous, dans le fond, c'est vraiment des services d'information, de référencement, de soutien des gens pour dire, écoutez, la justice, oui, c'est le palais de justice, mais c'est aussi de l'information qui peut être accessible avec des gens compétents qui peuvent nous aider à comprendre puis à connaître les options.
Mais on les prend où, ces gens-là? Il y a l'aide juridique, il y a...
C'est différent. Dans le fond, l'aide juridique va avoir des avocats qui vont représenter des gens qui ont des moyens financiers limités. Des centres de justice de proximité, il y en a 10 au Québec, offrent des services gratuits pour tous les citoyens, vraiment d'information, de soutien, d'orientation quant aux besoins en matière de justice.
Mais est-ce qu'on parle de droit civil et de droit criminel?
Écoutez, c'est très, très général.
On peut être tannant puis aller chez vous, là?
Tout à fait, tout à fait.
Okay.
C'est un service qui est financé par le bureau du Fonds Accès Justice du ministère de la Justice, justement pour pouvoir outiller les gens, pour des fois juste savoir, écoutez, vers où je peux me tourner. C'est pas nécessairement, c'est quoi mes options. Aussi, on éduque aussi les gens sur les modes de prévention et règlements des différents pour dire, oui, il y a le palais de justice, mais il y a aussi d'autres modes qui peuvent être alternatifs, qui peuvent être moins dispendieux, plus rapides et tout à fait intéressants et se sentir aussi pas lésé, se sentir écouté puis résoudre là, ces problèmes d'ordre juridique.
Et si vous me permettez, peut-être juste donner une petite information aux gens de la région de Montréal. Encore cette année, du côté du complexe Desjardins, jusqu'à jeudi, il est possible de consulter un avocat, de poser ses questions tout à fait gratuitement. Il y a des procès simulés, il y a un paquet d'activités. Là, c'est de, je crois que c'est 9h30 à 4h30, donc à 16h30 aujourd'hui, lundi, jusqu'à jeudi. Alors, c'est un petit peu dans la même veine. Isabelle, dans le fameux article du journal Le Droit, je le cite, « Aujourd'hui encore, certaines structures ne sont pas adaptées, mais l'avocate n'en veut pas à personne et s'en accommode. » Et là, c'est vous qui dites, « On ne peut pas demander à ce que tout soit accessible aux personnes handicapées. » Ça détonne un peu sur certains discours ambiants. J'aimerais ça que vous m'expliquiez.
Bien, dans le fond, expliquer, c'est très simple. Dans le fond, y a des bâtiments qui sont vieux, il y a des bâtiments qui sont historiques. On ne peut pas demander à que tout soit accessible tout de suite. Moi, ma vision, c'est vraiment... Voyons ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que, bon, sur tel point, on serait capable d'aider en mettant une porte automatique? Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour regarder, voir si on pourrait aller chercher des subventions? Est-ce qu'on peut éduquer les gens, justement, qui ont des rampes à aller déblayer l'hiver? Je suis plutôt de l'approche des petits pas en disant, bon, ben voici, parlons, discutons, voyons s'il y a des façons de faire, parce qu'on ne pourra pas tout rendre accessible demain matin.
Donc, c'est ça. Ce que j'entends, c'est ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais quand même, c'est pas un aveu ou une acceptation de Ben, c'est comme ça, que voulez-vous?
Non, je veux dire, c'est sûr que moi, je me suis accommodée. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans un deuxième étage. J'avais une chaise roulante en bas, une chaise roulante en haut, et je me traînais dans les marches. Et c'était tout à fait correct. Je veux dire, moi, je voulais travailler là. C'était pas possible d'avoir d'ascenseur pour différentes raisons. Bon, je l'ai fait, mais c'était mon choix. J'étais pas obligée de le faire. Alors, c'est ça. Je me dis, voici, regardons par où on peut travailler. Puis souvent, quand on a des gens qui sont ouverts, on peut trouver des solutions qui peuvent être intéressantes. Et c'est souvent plus efficace que d'imposer aux gens.
Toujours dans le même article, je voulais postuler dans un cabinet qui cherchait un étudiant en droit. Mais on m'a dit qu'il n'était pas pourvu de rampe d'accès. J'ai laissé tomber. L'expérience l'a refroidi et elle ne tentera plus sa chance. Donc, et là, je me suis dit, ben, il me semble que ça va justement à l'encontre de « on ne peut pas accepter ou on ne peut pas s'attendre à ce que tous soient accessibles ». Puis là, on se dit « ben, c'est un bureau d'avocat. Est-ce que votre point de vue a changé en ce sens? Est-ce que maintenant, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, Isabelle. C'est juste qu'ici, à l'émission, on a souvent des gens qui sont prêts à manifester, n'acceptent pas, font des recours collectifs. Faut que ça change. Et là, ce que j'entends, c'est « zut, je voulais travailler dans ce bureau d'avocat-là. Ils m'ont dit « il n'y aura pas de rampe d'accès, j'ai laissé faire ».
Tout à fait. Bien, dans le fond, c'est un petit peu une anecdote, ça, plus qu'un événement. C'est pas quelque chose du tout qui a été traumatisant. Là, moi, j'avais le choix de ne pas travailler. Il y avait une offre d'emploi qui paraissait intéressante. J'ai appliqué. Et dans le fond, c'était dans un immeuble. Bon, j'étais à Montréal dans ce temps-là. On s'entend qu'il y a plusieurs immeubles à Montréal où il y a des marches. Ouais. Alors, dans le fond, j'ai fait le choix de ne pas réappliquer ailleurs parce que c'était mon choix personnel. C'est sûr que oui, ça m'aurait tenté à ce moment-là. Puis d'un autre côté, après ça, j'ai été absorbée par les études et j'ai pas refait d'autres démarches là, pour me trouver d'emploi étudiant. Mais c'était plus une anecdote, un exemple, dans le fond, que oui, ça m'est arrivé. Je dis pas que tout est parfait, mais il faut voir où sont nos priorités. Puis moi, ben ma priorité à ce moment-là, c'était vraiment de la mettre au niveau de mes études pour bien réussir. Là. C'était pas de me battre pour trouver un emploi étudiant, absolument.
Est-ce que vous vous donnez, et comme je vous dis, il y a très pas de problème à ce que vous me dites, non, moi, j'ai pas envie de porter ce chapeau-là. Est-ce que, comme avocate, vous avez un petit peu l'intérêt ou le désir de que ce soit vous assurer que la Charte des droits et libertés soit appliquée là où vous êtes, ou peut-être même essayer d'influencer, peut-être modifier ou en tout cas parler à l'égard de certaines législations. Est-ce que c'est un des chevaux de bataille?
C'est sûr que c'est tout ce qui s'appelle droits et libertés, je trouve ça extrêmement important. Puis c'est entre autres pourquoi je travaille maintenant dans le communautaire, que je suis plus en pratique privée. Ça me permet d'être près des citoyens et c'est sûr que c'est des valeurs qui me tiennent tout à fait à cœur. Là.
Diriez-vous que si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose, ce serait quoi? Que ce soit au niveau de la charte, de son application, d'une loi, au niveau...
Oh mon Dieu, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a personne qui veut être confronté à avoir de problèmes, puis on veut que, oui, tous les droits et libertés des gens soient respectés. C'est sûr et certain. Par contre, dans le monde où on vit, on a des contraintes physiques. Puis je pense que le mieux, c'est d'être capable de les dire puis d'en discuter pour justement faire changer les choses beaucoup plus facilement qu'en les forçant.
Ouais. Vous avez passé quelques années ici à Montréal. Vous avez fait une partie de vos études, sinon toutes vos études. Maintenant, vous êtes retourné sur la Côte-Nord. Je lisais que vous aimez la Côte-Nord. Parlez-moi un petit peu de la différence au niveau de, justement, la limitation fonctionnelle, comment elle est accueillie humainement. Et comment c'est possible également, que ce soit au niveau de l'architecture ou au niveau de fonctionner en tant que personne avec des limitations?
Bien, c'est sûr que la grosse différence entre Montréal et Sept-Îles, la première, c'est l'hiver.
Oh.
L'hiver perdure drôlement plus longtemps à Sept-Îles qu'à Montréal.
Ouais.
Alors ici, des trottoirs dégagés, c'est tout un défi, là. Alors, c'est sûr que ça, c'est la première différence qui est vraiment majeure. J'ai pas possibilité ici d'aller prendre une marche l'hiver. Tu sais, veux pas, les routes sont enneigées. Bon, c'est des contraintes physiques qui sont aussi pertinentes. Alors, mais c'est sûr que au niveau des buildings, c'est sûr que la ville de Sept-Îles est plus récente que celle de Montréal. Tu sais, il y a toutes ces contraintes architecturales-là qui sont différentes. Là, je connais plus comme avant le réseau de transport à Montréal, mais moi, quand j'y étais, là, une quinzaine d'années, ils venaient d'acheter une flotte d'autobus à plancher bas, et puis l'horaire pour les personnes handicapées n'était pas encore adapté sur certains circuits. Alors ça posait des problématiques là, que je m'ennuie pas d'ici, où t'es partout en 7 minutes, là.
Mais diriez-vous que il y a moins d'édifices, disons, publics ou grand public, qui ne sont pas accessibles à cette île qu'à Montréal? Justement à cause de l'aspect plus récent de la ville?
Je pourrais pas l'affirmer parce qu'il y a plusieurs buildings qui sont à plus d'un étage et qui n'ont pas
Pas d'ascenseur,
d'ascenseur, mais il y a, tu sais, des questions d'années de construction, et puis je pourrais pas là dire des pourcentages, là. J'ai pas les éléments pour répondre à la question.
En terminant, et ça c'est carrément ailleurs, mais si je calcule bien, vous avez 40 ans. Pour la femme que vous êtes, comment ça a frappé le 40 ans?
Écoutez, très bien, très
OK.
bien. Je me dis, quand on est bien dans sa peau, ça fait pas de peur, et puis ça fait justement avoir plus d'expérience, puis la vie est belle. On est capable justement de plus savoir qu'est-ce qu'on veut et où on va.
Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Êtes-vous, c'est pas de mes affaires, mais est-ce que vous participez à un régime d'épargne enregistré d'invalidité?
Oui, tout à fait.
Bon, parce qu'on va en parler tout de suite après Dixie Chicks. Je m'entretenais avec Isabelle Blouin. Je vous pose la question parce que Guillaume Parent nous dit régulièrement qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui sont admissibles, qui ne profitent pas justement de tout ce qu'offre le REI. Donc, on y revient. Elle est directrice du Centre de justice de proximité sur la Côte-Nord à Sept-Îles. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci, bonne journée.